Le territoire de l'île-Dieu, la mer qui l'entoure et les fonds marins sont protégés dans le cadre du réseau Natura 2000. Ce dernier concilie préservation de la nature et préoccupation économique. Pour en parler, Émilie Jacot en service civique à l'OFB. Bonjour.
Bonjour.
Perrine Chevillard, bonjour.
Bonjour.
Laurine Mill, bonjour.
Bonjour Roland.
Vous êtes deux protectrices de l'environnement durant cette saison estivale à la mairie de l'île-Dieu. Perrine, Laurine et Émilie, qu'est-ce que la zone Natura 2000 pour l'île-Dieu ?
Eh bien, les zones Natura 2000, en fait, c'est un réseau européen d'aires protégées qui existe depuis 1992. Et le but, c'est vraiment de concilier les activités humaines, sociales et économiques en conciliant avec la protection de la biodiversité.
Et en France, ces zones représentent 13% du territoire terrestre métropolitain et 35% de son espace marin.
Perrine, il en existe combien sur l'île-Dieu, sur terre et en mer ?
Eh bien, il y en a trois au total. Il y a une zone terrestre qui va être animée par la mairie. Ça représente les côtes rocheuses, les dunes, les landes et les marais de l'île-Dieu. Et après, on a deux zones marines dont Émilie nous parlera peut-être un peu mieux.
Oui. Émilie, je t'en prie.
Donc, il y a deux zones marines qui, elles, sont animées par donc, l'Office français de la biodiversité. La première qui fait vraiment le pourtour de l'île s'appelle donc, le plateau rocheux de l'île-Dieu. Et elle se concentre sur la protection des habitats et des espèces de mammifères marins. Et ensuite, on a celle du secteur marin de l'île-Dieu qui va jusqu'au continent et celle-ci se focalise sur la protection des oiseaux marins.
Perrine et Laurine, quels sont les enjeux sur la zone terrestre ?
Eh bien, sur la zone terrestre, il y a plein d'enjeux parce que c'est un milieu très diversifié où il y a différentes du coup, pressions, notamment liées à l'activité humaine, au tourisme et à la surfréquentation en juillet-août. Par exemple, il y a les pelouses rases au bord des falaises où cette végétation est rase et du coup, ça, on a du mal à faire comprendre aux gens qu'on doit la protéger.
Faut pas rouler dessus en vélo.
C'est ça, en partie. Et elle est
rase. Faut éviter même de marcher dessus.
Ah oui, c'est mieux. Et elle est rase parce que justement, c'est l'adaptation de ces plantes au fait qu'il y ait beaucoup de vent et d'embrun marin qui arrivent, et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas être si grandes que ça.
C'est ça, et il y a notamment certaines espèces qui n'existent qu'ici, et c'est le cas du plantain caréné. Bon, ça existe aussi sur Belle-Île et sur Groix, mais voilà, c'est toujours bon à savoir.
Le plantain caréné, ça ressemble à quoi cette plante ?
C'est un peu comme un plantain en forme de boule, qui fait un mini buisson, et comme l'a dit Perrine, c'est vraiment une espèce qui est présente surtout dans les milieux insulaires, donc l'île-Dieu, Belle-Île et Groix, et c'est pour ça en partie qu'il faut protéger ces pelouses rases. Et puis il y a aussi les espèces exotiques envahissantes qu'il y a sur l'île à différentes échelles et dont on parlera un peu plus.
D'autres exemples pour cette zone terrestre, Perrine ou Laurine ?
Bah, il y a les goélands que vous connaissez très bien aussi, c'est un enjeu hyper important. C'est une espèce qui est protégée, même si on ne le sait pas toujours. On a l'impression qu'ils sont nombreux, alors qu'en fait, ils sont en danger eux aussi.
Et donc, les goélands sont en danger.
Eh oui, il y a eu une baisse en 30 ans de 50% de la population de goélands. Et donc, il faut vraiment faire gaffe, notamment à leur zone de nidification.
Parce que j'ai l'impression qu'il y en a partout, c'est pour ça que je te pose la question.
Eh oui, tout à fait.
Ils sont juste plus concentrés chez nous.
C'est ça, voilà.
Et ailleurs, il y en a moins, c'est ce que vous nous dites.
Bah, ici aussi, il y a ce même problème de baisse de la population.
Mais comment ça s'explique ?
Eh bien, c'est des raisons surtout humaines, évidemment. Mais il y a eu la fin des décharges sauvages, par exemple. Il y a aussi le fait que différentes choses liées au réchauffement climatique, fait qu'ils ont un peu plus de mal à se reproduire, etc.
Le dérangement répété des personnes qui ne respectent pas forcément les sentiers et qui font qu'ils s'envolent de leur nid. Il y a aussi, on rogne pas mal sur leurs habitats naturels. C'est le cas pour plein d'autres espèces. Et donc forcément, ils se retrouvent dans les villes parce qu'ils doivent s'adapter.
Qu'est-ce que tu appelles rogner sur leur habitat naturel et quels habitats naturels ?
Bah, va avoir par exemple l'urbanisation sur les côtes, en bord de mer, là où eux, et c'est leur habitat en fait, ou de base en bord de falaise, etc. Ils préfèrent nicher.
Même question, Émilie, pour les enjeux pour la zone maritime.
Alors, pour la zone maritime, il y a différents enjeux en fonction des différentes zones. Sur celle du plateau rocheux, donc qui est vraiment autour de l'île, on a trois habitats qui ont un enjeu écologique majeur, donc les herbiers de Zoster, les forêts de laminaires et les récifs d'Hermel. On a également pour cette zone-là deux espèces de mammifères marins, le grand dauphin que vous pouvez voir fréquemment sur nos côtes et notamment à l'entrée du port. On a le marsouin commun qui lui est un peu plus timide. Et ensuite, pour la zone qui va jusqu'au continent, on a comme enjeu la protection de 18 espèces d'oiseaux marins, comme par exemple le puffin des Baléares, qui est l'une des espèces les plus menacées d'Europe.
Tu nous as parlé de l'herbier de Zoster. Quels sont les rôles de cet herbier pour la biodiversité ?
Déjà, pour vous rappeler, les zoosters, donc, ce ne sont pas des algues, ce sont des réelles plantes à fleurs, comme les plantes terrestres. Elles vont former des grandes prairies sous-marines, très jolies à voir, notamment quand elles sont en fleurs. Et donc ces herbiers jouent de très nombreux rôles. On peut notamment y retrouver plus de 500 espèces d'animaux, comme l'hippocampe qui adore s'enrouler autour de ses feuilles. Les herbiers vont servir d'abri, de zone d'alimentation, mais aussi de zone de ponte et donc de nurserie quand les petits vont naître. Les racines des herbiers vont permettre également la fixation des sédiments et les feuilles vont permettre le stockage de carbone dissous dans l'eau. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais les herbiers zoostères piègent le carbone jusqu'à 35 fois plus par hectare que les forêts tropicales. Donc c'est vraiment énorme et important à protéger.
Sur quelle zone est-il possible de les voir, ces herbiers ?
Donc on peut les observer sur la côte sableuse de l'île-Dieu, donc de Kerchalon jusqu'à la pointe des Corbeaux. Et donc pour les voir, il vous suffit de vous munir de vos masques, palmes et tubas. Et vous pouvez notamment très bien les voir à la plage des Sapins et à la plage des Conches. Mais attention, quand vous allez les voir, faites attention à ne pas laisser traîner vos palmes sur le fond.
Car ça fait partie des pressions.
C'est ça.
D'autres pressions ?
Oui, donc pression physique, donc typiquement les palmes. Il y a également le mouillage, l'ancrage, surtout à cause du ragage de la chaîne sur le fond. Ça va arracher tous les pieds de zoostères. On peut retrouver également des pressions chimiques, donc avec les différents types de pollution de produits qui vont tomber d'un bateau ou couler de la côte. Mais du coup, pour répondre à toutes ces pressions, il y a plusieurs solutions qui sont mises en place pour essayer de protéger ces herbiers. Notamment, il y a une zone d'interdiction de mouillage à Kerchalon. Et il y a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, comme Laurine et Perrine peuvent le faire tout au long de la saison, pour tenir au courant un maximum de personnes et les informer de la présence de cet herbier.
Perrine et Laurine, tout à l'heure, vous nous parlez des espèces exotiques sur le territoire de l'île-Dieu. Elles sont nombreuses ?
Alors, il y en a trois principales. Mais d'abord,
espèces exotiques envahissantes.
C'est ça, espèces exotiques envahissantes. Après, il est important de préciser vraiment la différence entre espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes.
C'est pour ça que je me suis repris.
Très
je
bien.
T'en prie, tu peux nous donner la différence.
Oui, et du coup, il y a déjà les espèces exotiques envahissantes, c'est un des cinq facteurs d'érosion de la biodiversité. On n'en a pas souvent conscience, mais au même titre vraiment que le changement climatique et les pollutions. Et donc, une espèce exotique, c'est une espèce qui n'était pas présente avant le milieu des années 1500. Après, elles ont été introduites volontairement ou accidentellement suite à l'internationalisation des transports, le tourisme et le commerce, par exemple. Et donc, il y a certaines, notamment sur l'île-Dieu, qui sont apparues petit à petit, notamment pour orner les jardins.
C'est ça. Et en fait, parmi ces espèces exotiques-là, il faut savoir déjà qu'il y en a très peu qui deviennent envahissantes, mais quand elles le deviennent, elles s'installent et elles se propagent vraiment au détriment des espèces endémiques. Et donc elles sont impliquées dans un tiers des extinctions, c'est assez énorme. Et on peut prendre, pour bien illustrer cette distinction, l'exemple du cyprès de Lambert, qui a été introduit sur l'île au début du XXe siècle pour le bois de chauffage, mais il n'est pas super adapté au climat de l'île, donc il n'est pas devenu envahissant. Donc ce n'est pas un problème actuellement. Là où, par exemple, les espèces dont on va vous parler juste après, ça devient un problème.
Vous pouvez nous donner des noms d'espèces envahissantes ?
Alors,
exotiques,
oui.
Envahissantes, pour être précis, une nouvelle
Alors,
fois.
Les noms d'espèces d'exotiques envahissantes présentes sur l'île-Dieu, Il y a par exemple la griffe de sorcière qui est assez connue, souvent utilisée dans les jardins. Ce sont des fleurs assez colorées, souvent d'une couleur un peu pourpre. Et c'est une plante vivace qui va vraiment faire un tapis végétal sur tout le parterre et qui va vite s'étendre.
C'est pour ça qu'on dit qu'elle est envahissante.
C'est ça, parce qu'elle va vraiment prendre la place d'autres espèces qui sont endémiques, donc qui sont présentes sur l'île-Dieu et qui appartiennent vraiment à l'écosystème de l'île-Dieu.
C'est ça. Et en l'occurrence, pour la griffe de sorcière, elle prend notamment la place des plantes des dunes. Donc ça pose problème. Et une deuxième espèce qu'on voit beaucoup, c'est l'herbe de la pampa. Ça a été introduit dans les années 70-80, à but ornemental. Et c'est une espèce de buisson avec des feuilles très coupantes et des grands plumeaux qui jaillissent de ces buissons-là. Donc vous voyez sûrement à quoi ça ressemble.
Que faire si elles sont présentes chez soi ?
Eh bien, le mieux, c'est d'agir entre octobre et avril, avant vraiment la production de graines et de fruits, et vraiment répéter la coupe de ces plantes jusqu'à épuisement de leurs racines et de la plante en elle-même.
C'est ça. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment éviter, enfin même ne pas les mettre au compost, et surtout pas dans la nature.
Et comment ça se reproduit ?
Eh ben oui, c'est ça.
On l'avait compris.
Voilà. Et emballer donc tous ces fragments dans des sacs bien fermés et les emmener au pôle de la Gravère, en précisant bien que c'est des espèces exotiques envahissantes.
Voilà. Les gardiens sont au courant et savent comment agir et traiter ces déchets-là.
Et pour un peu plus d'infos, vous pourrez voir notre post Facebook.
Il parle vraiment des trois grosses espèces auxquelles on essaye d'agir sur l'île-Dieu. C'est la griffe de la sorcière, herbe de la pampa et le bacaris, qu'on appelle aussi sénesson en arbre.
Émilie, Perrine et Laurine, pour conclure, peut-on dire que ces zones Natura 2000, terre et mer, sont des écosystèmes interdépendants ?
Ah oui, totalement. Je pense
Laurine.
Que c'est plus un secret. Tout ce qui a une influence sur la terre peut ensuite se répercuter sur la mer et inversement. Par exemple, sur les dunes, tout ce qui est l'oya ou le panicot bleu, cette espèce de chardon qu'on voit souvent sur les dunes et qui ont des très longues racines qui permettent vraiment le maintien de la dune. Et ben si on ne les protège pas et si elles finissent par disparaître, la dune va s'effondrer. Et la dune, elle sert à quoi ? À protéger l'intérieur des terres, à la montée des eaux.
Perrine.
C'est ça. Et on a aussi la question des pollutions qui viennent de la terre. Ça montre bien que nos activités humaines dans un milieu, en l'occurrence le milieu terrestre, peut avoir un impact sur un autre, c'est-à-dire le milieu marin par exemple.
Émilie, le mot de la fin pour toi.
Et du coup je voulais rajouter aussi donc, la mer a un impact sur la terre, notamment avec les forêts de laminaires et les herbiers de zoster qui elles vont permettre de freiner la houle, ce qui va permettre de réduire la vitesse d'érosion des falaises, des dunes et ainsi le recul du littoral.
Est-ce qu'on retrouve toutes ces informations que vous venez de nous indiquer sur Internet ?
Oui, il y a vraiment beaucoup de documentation où vous pouvez retrouver toutes ces informations-là, expliquées à différents degrés de difficulté en fonction de votre niveau, de ce que vous connaissez déjà.
Émilie Jacquot, en service civique à l'OFB, merci beaucoup.
Merci à toi.
Perrine Chevillard, merci beaucoup.
Merci.
Laurine Mille, merci beaucoup.
Merci.
On rappelle, vous êtes deux protectrices de l'environnement durant cette saison estivale à la mairie de l'Île-Dieu. À très bientôt.